7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, autant de noms affiliés à des révélations sur l'opacité des paradis fiscaux. Depuis une dizaine d'années, les dossiers se succèdent à la une de la presse internationale pour dévoiler les dessous de l'évasion fiscale. Le dernier en date, l'enquête OpenLux, publiée cette semaine par le journal Le Monde, en partenariat avec des médias étrangers. Quelles sont les incidences de ces révélations dans la lutte contre les paradis fiscaux? Bonjour Pascal Saint-Amand.
Bonjour.
Vous êtes directeur fiscal de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Tout d'abord, le point sur ce qu'ont révélé les OpenLux, autrement dit, la dernière enquête publiée par Le Monde.
Alors, ce qu'ont fait les journalistes du Monde et de quelques autres journaux, c'est de travailler sur une base de données publique. Donc là, il n'y a rien de secret. Et c'est essayer d'exploiter quelles sont les informations qu'on peut tirer du registre des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire le Luxembourg a mis en place un registre où ils indiquent qui sont les propriétaires des sociétés incorporées au Luxembourg. Mmh. Et à partir de là, ils essayent de voir si c'est transparent, pas transparent, qui est derrière et pourquoi des structures au Luxembourg.
C'est-à-dire qu'on a affaire à ce que l'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale. C'est légal. Ensuite, chacun jugera de ce qu'il est bon de faire ou pas dans un souci de justice sociale. Pascal Saint-Amand?
Alors, c'est absolument ça. En réalité, depuis une dizaine d'années, on a changé beaucoup les règles de fiscalité internationale. Il y a de la coopération fiscale. On a construit une forme de régulation fiscale de la mondialisation qui s'est traduite, par exemple, par la fin du secret bancaire. Donc, il y a 10 ans, ce qu'aurait révélé des fuites au Luxembourg, ça aurait été des vraies fuites. L'information n'aurait pas été publique. C'était secret. C'était des gens qui fraudaient le fisc français ou étranger en mettant leurs actifs dans des comptes bancaires luxembourgeois qui étaient totalement secrets. Ça, ça a sauté. Il n'y a plus de secret bancaire. Mmh. Il n'y a plus de secret fiduciaire des trusts. En revanche, il reste des structures juridiques qui permettent aux personnes physiques comme aux sociétés de faire ce que vous avez appelé de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire de réduire leurs factures fiscales en utilisant des structures juridiques. C'est légal, mais on voit bien que ça réduit la charge fiscale en France ou en Allemagne par des moyens qui semblent beaucoup plus juridiques que guidés par la vie réelle, on va dire.
Mais alors, dans le cas d'OpenLux, cela permet aussi de se rendre compte à quel point le Luxembourg vit en partie de cela, Pascal Saint-Amand.
C'est vrai. Alors, en même temps, pour défendre le Luxembourg, je vais pas être dans une situation paradoxale, mais le Luxembourg a mis en place un registre des sociétés et des bénéficiaires effectifs. C'est un des premiers pays à l'avoir fait. C'est une exigence européenne. La France n'en est pas là. L'Allemagne n'en est pas là. Et donc, en quelque sorte, le Luxembourg est pris à son propre jeu de transparence. Et donc, il est un peu regrettable qu'il soit victime d'avoir progressé dans le sens de la transparence. Mais en second lieu, on voit bien que le Luxembourg, c'est une petite économie ouverte, très petite économie, très ouverte, et donc qui va dépendre des investissements internationaux et qui va essayer d'attirer les investissements internationaux. Le Luxembourg, notamment depuis la mise en place du gouvernement Bettel, l'actuel Premier ministre et du ministre des Finances Gramegna, ils en sont à leur deuxième mandat, au début de leur deuxième mandat maintenant, ils ont appliqué toutes les règles internationales, ce qui n'était pas du tout le cas de leurs prédécesseurs, bien connus, et ils se sont mis en conformité avec les règles internationales. Mais il y a un héritage, il y a toute une série de fonds d'investissement, de fonds tout court qui sont établis au Luxembourg, et puis il y a aussi le fait que si on a régulé la fin du secret bancaire, si on a régulé l'optimisation des sociétés, c'est-à-dire des multinationales, on ne l'a pas encore fait pour les personnes physiques. Et donc les personnes physiques peuvent, les très gros patrimoines, il y en a plusieurs Français qui sont révélés dans ces papiers, eh bien ils peuvent mettre des structures qui vont porter leurs châteaux, qui vont porter leurs...
Voilà, alors ça effectivement c'est très pratique Pascal Saint-Amand, car on peut par exemple avoir un château en Bretagne et le domicilier au Luxembourg.
Absolument, c'est ce que montrent ces papiers, mais aussi des actifs financiers ou la propriété de société. Alors, quel est l'intérêt?
Voilà, ou alors, par exemple, lorsqu'on est Yves Rocher, Hermès, J.C. Decaux ou Decathlon, pour ne citer personne, mais plusieurs personnes, Pascal Saint-Amand, plutôt plusieurs personnes morales en l'occurrence, on peut donc faire une activité notable en France et être logé au Luxembourg.
Alors absolument. Alors ça ne veut pas dire qu'on va échapper aux impôts en France. Il y a des impôts qui seront payés en France. Mais on peut, à la marge, optimiser, c'est-à-dire réduire sa facture fiscale quand on va faire des plus-values. C'est-à-dire si on invite, j'ai une grosse fortune, je vais la gérer depuis le Luxembourg, et à chaque fois que je fais des achats et des reventes sur titres ou sur des propriétés, ben, je vais pouvoir loger ce qu'on appelle plus-value, ces gains que je fais, sans qu'ils soient immédiatement taxés en France. Ils sont taxés en France in fine, puisqu'il n'y a plus de secret bancaire, mais je peux réaliser plein d'opérations intermédiaires en dehors de la fiscalité française, bon, alors, dans la plupart des cas.
Alors, conclusion, Pascal Saint-Amand, si on veut que les choses changent, il faudrait harmoniser fiscalement l'Europe, et ça, a priori, ce n'est pas pour demain, et ça serait très préjudiciable, pardon, au Luxembourg, même si vous avez dit que ça n'était pas la seule activité économique, évidemment, du pays.
Alors, harmoniser, ça serait une possibilité. Effectivement, c'est peu probable dans la mesure où les règles fiscales en Europe font l'objet de l'unanimité. Tous les pays doivent être d'accord. Mais il y a d'autres façons de faire. Il y a la coopération qui est en cours. Il y a le fait de mettre... C'est-à-dire, on a maintenant de la coopération fiscale et le Luxembourg joue parfaitement selon les règles du jeu. Après, on peut avoir des opérateurs qui vont faire du blanchiment et autres, comme en France ou ailleurs. Mais fondamentalement, ce qu'il faudrait sans doute continuer à faire, c'est établir des règles internationales de coopération ou de régulation qui font en sorte qu'on limite la concurrence fiscale, qu'on limite l'offre de structures juridiques qui permettent de réduire les impôts dans les états de résidence de façon légale. Ben, il faut rendre ça illégal. Et le Luxembourg, et ça il faut leur rendre grâce, a amélioré la situation, a mis fin au secret bancaire, a mis en place le registre des sociétés. Et aujourd'hui, dans nos négociations internationales, vous savez, on essaye de mettre en place une imposition minimum mondiale. On essaye en place des règles pour taxer ce qu'on appelle les GAFA, eh bien le Luxembourg est un partenaire très constructif qui dit « Ok, les règles, il faut peut-être les changer et je ne m'opposerai pas à leur changement. » Donc voilà, il y a des choses très positives qui interviennent aussi, même si on voit qu'il y a de l'héritage et une société qui est très judiciarisée ou avec beaucoup d'instruments juridiques qui peuvent créer un peu d'opacité. Ça, c'est le résultat de la globalisation qui n'a pas été régulée pendant des années. La suite de la crise financière de 2008 et sans doute la crise Covid va, à mon avis, accélérer la régulation fiscale de cette mondialisation.
Ah oui, pourquoi en quelques mots, Pascal Saint-Amand, expliquez-nous
très,
en quoi...
Très simplement, on ne peut pas accepter, je crois, demain, que les sociétés dont on a nationalisé les salaires, hein, le chômage partiel, c'est une nationalisation des salaires, mais on ne peut pas accepter que ces sociétés, demain, mettent leurs profits dans des paradis fiscaux. Elles ont été sauvées avec de l'argent public, avec de l'impôt. Demain, moindre des choses, c'est qu'elles payent leurs impôts. Et donc, mettre en place un impôt minimum mondial, c'est ce qu'on est en train de faire à l'OCDE. Et là, on est en train de reprendre aujourd'hui, littéralement, la négociation avec l'administration Biden, parce que l'administration Trump était en retrait. Eh bien, on a l'espoir d'aboutir à une solution en juillet prochain au G20. Donc, vous voyez, il y a une dynamique qui est plutôt positive.
Merci, Pascal Saint-Amand. Je rappelle que vous êtes directeur fiscal de l'OCDE. Il est 7h23.